Chapitre 2. Nous réussîmes, Dieu sait comment, à grappiller quelques heures de sommeil avant l'apparition d'une pâleur grise derrière les nuages, annonciatrice de l'aube. Grâce à un apport constant en oxygène, l'Obsang Sherpa fut celui qui dormit le mieux. Nous autres, nous étions contentés de prendre quelques bouffées d'air anglais quand le froid, et dans mon cas la toux, était devenu trop pénible. Lady Bromley-Montfort eut le droit de choisir la première un bloc de roche derrière lequel se soulager. Puis nous y allâmes deux par deux. Nous ne tentâmes pas d'allumer le réchaud Una, même si nous avions encore 6 barres de méta, nous contentant des 2 petites thermos qui nous restaient de la veille. Nous parlâmes à peine en enfilant nos épaisseurs de vêtements. Le diacre posa quelques questions à l'Obsang à propos des Yétis qui avaient prétendument attaqué, mais les propos du Sherpa n'étaient pas très cohérents. De toute façon, nous ne croyions pas aux Yétis. Le diacre, qui avait vu les empreintes du monstre en 1921 et 1922, était le plus sceptique. Il nous avait très souvent rappelé que la lumière du soleil faisait fondre les traces d'un quadrupède, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, pour les transformer en grandes empreintes de bipèdes. Quant à moi, si en matière de Yéti j'étais plutôt agnostique en 1925, je ne croyais pas que de grosses bêtes à 2 jambes dévoraient nos porteurs Sherpa. Nous vérifiâmes les tubes et les valves de nos appareils à oxygène avant de les ranger dans la GTR. Nous avions l'intention d'utiliser ces bouteilles d'oxygène supplémentaires lorsque nous reviendrions au camp 5 avant de tenter le sommet. Puis fourrâmes dans nos sacs à dos ce dont nous aurions besoin pour descendre. Nous avions tous les 4 nos pistolets Very avec leurs 3 fusées, sauf moi qui n'en avais plus que 2. J'étais aussi le seul à avoir 2 bouteilles d'oxygène dans mon sac. Ordre du diacre. Nous ne sommes pas tous obligés de descendre, dis-je, une fois sorti dans l'équivalent d'un brouillard londonien glacial. Je peux rester ici le temps que vous alliez voir ce qui s'est passé. Que feriez-vous ici tout seul, Jake ? Me demanda Jean-Claude. J'enterrerai Mallory. J.C. ne parut pas surpris par ma réponse. Comme moi, il avait mauvaise conscience de laisser le corps ainsi exposé sur la pente où l'alpiniste était mort. Mais nous savions tous les deux que nous avions bien fait d'obéir au diacre et de battre en retraite vers le camp 5 au moment où nous l'avions fait. Si nous étions restés dehors, à la merci de la tempête de la veille, il y aurait eu plus d'un corps à enterrer ce jour-là sur la face nord de l'Everest. « Non, Jake, » dit le diacre. Outre le fait que vous ne retrouveriez sans doute pas le corps de George dans ce nuage, d'autant qu'il doit être recouvert de neige fraîche, on a besoin de vous pour mener la descente au camp 4. « Jean-Claude peut s'en charger, » dis-je, en une dernière protestation maladroite. « Jean-Claude prendra le relais quand nous atteindrons les champs de neige et les crevasses du col nord. » dit le diacre du ton sans réplique du chef de l'expédition. « C'est vous qui nous guidez sur les rochers. Vous êtes notre expert rochassier. C'est la raison pour laquelle nous avons payé votre voyage jusqu'ici, mon ami américain. » Au lieu d'argumenter, je réglais le régulateur de mon appareil à oxygène sur le plus faible débit, mis le masque sur mon visage et le fixais à mon bonnet d'aviateur, en songeant à la lanière identique que j'avais trouvée dans la poche de Mallory. Je ne portais pas grand-chose en plus des 2 bouteilles d'oxygène, de mon petit pistolet Very, des 2 cartouches restantes et d'une barre de chocolat. Seul le premier de cordée, durant la longue descente, porterait et utiliserait 2 cylindres d'oxygène. Nous avions laissé les 5 autres bouteilles pleines et leur châssis ici, au camp 5. Avec le diacre le dimanche et J.C. le lundi, les Sherpas avaient monté pas moins de 6 sacs à dos, contenant 3 bouteilles chacun, sans en utiliser aucune durant l'ascension. Et nous les avions dissimulés un peu plus bas, au niveau des 2 tentes à côté desquelles nous avions trouvé l'Obsang la veille. Si nous revenions à ces camps en altitude, ces 23 bouteilles d'air anglais devraient largement nous suffire pour poursuivre la recherche de Percy et tenter d'atteindre le sommet. À 4, voire même en 2 groupes de 3. Je me souviens d'avoir pensé, ce serait beau si nous étions 6 à atteindre le sommet. Malgré la terreur évidente de l'Obsang, je ne pensais plus du tout aux Yétis. Nous descendrons à deux cordées, annonça le diacre sans nous demander notre avis. Jake dirigera la première avec le docteur Passang, puis Jean-Claude. Lady Bromley-Montfort prendra la tête de la deuxième, suivie de Lobsang Sherpa et moi. Les cordes fixes seront peut-être partiellement ensevelies sous la neige. Mais Lobsang en a trouvé et dégagé la plupart lors de son ascension d'hier, ce qui nous fera gagner du temps. Sauf en cas de malaise, personne ne prend d'oxygène sauf Jake, qui passera le masque à Jean-Claude quand celui-là le relaiera en tête de cordée pour traverser les champs de neige au-dessus du camp 4. J.C. commença à arguer qu'il n'aurait pas besoin d'oxygène, qu'il avait effectué la plus grande partie de l'ascension au camp 5 la veille sans, mais le diacre le réduisit au silence d'un simple hochement de tête. Avant que nous enfilions tous nos cagoules et nos grosses écharpes sur nos visages, coupant court à toute conversation, Reggie dit « Lobsang est un peu nondecompos mentis. Je me demande ce que nous trouverons au camp de base. » Je soupçonne que quelque chose a vraiment effrayé les Sherpas, dit le docteur Passang. Il est possible qu'ils aient abandonné l'expédition. Lobsang Sherpa finit par comprendre de quoi nous parlions, même si j'étais presque sûr qu'il n'avait pas saisi l'expression latine à propos de son état mental.
Non, dit-il en anglais. Pas effrayé, pas parti, tous tués. Les Yétis les ont tués, tous morts.
Tu y étais ? Lui demanda Passang. Tu as vu les Yétis tuer les Sherpas ?
Non, admit Lobsang. Sinon, je suis mort aussi. Mais le cuisinier Senchumbi et le muletier Nawangbura, ils voient les corps. Tout le monde est mort au camp de base. Terrible ! Du sang, des têtes, des bras et des jambes partout. Les Yétis tuent tout le monde !
Le diacre lui donna une tape dans le dos et l'aida à faire le nœud adéquat pour s'encorder à Reggie et lui.
« Nous saurons bientôt, » dit-il. « Lady Bromley-Montfort, n'oubliez pas que Lobsang Sherpa est le seul à ne pas avoir de crampons. Nous devons redoubler de précautions dans la descente. » J'écartai mon masque une seconde.
« J'espère pouvoir retrouver les piquets de bambou et les cordes fixes dans ce brouillard, » dis-je.
Comme personne ne me répondit, je remis le masque.
On n'a pas besoin de porter ces foutues lunettes par ce temps, si ?
Demanda J.C.
Non, répondit le diacre. On ne les mettra que si ça s'éclaircit. Nous devons surtout faire attention à l'endroit où nous posons les pieds dans la descente.
J.C. et moi nous assurâmes que le docteur Passang était bien accroché à la cordée. Nous ne laissions qu'une dizaine de mètres de corde entre nous, ce qui était dangereux dans la mesure où, en cas de chute de l'un, le suivant aurait peu de temps pour se mettre en position d'assurage. Mais je partageais l'avis du diacre selon lequel nous devions toujours voir celui qui nous précédait et nous suivait, quelles que soient les conditions météorologiques.
« C'est bon, Jake !»
cria le diacre du bout de la rangée.
« Emmenez-nous en bas, je vous prie !»
Utilisant mon piolet pour descendre les dalles inclinées couvertes de neige et de glace, je commençais à avancer entre les blocs de roches jusqu'à la partie basse du camp 5, puis parcouru une dizaine de mètres vers l'est pour rejoindre la crête de l'arête nord et le dangereux escalier à cet endroit.